France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Nicolas Delmas. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux conflits frontaliers en Asie et à leurs racines historiques, après celui qui oppose la Thaïlande au Cambodge, le Cachemire, les plaies ouvertes de la partition.
Le Pakistan n'a jamais voulu considérer que le Cachemire fasse partie intégrante de l'Inde après l'indépendance. La paix a été perturbée dans l'intérêt de certains, et bien entendu du Pakistan. Le Pakistan ne voudra jamais la paix et dira toujours que ce conflit est lié à une soi-disant situation au Cachemire, car c'est sa stratégie de survie.
L'Inde n'a jamais su vivre en paix avec ses voisins. On l'a vu en Chine, au Bangladesh ou au Sri Lanka. Et c'est là qu'est le danger. À chaque fois qu'un peuple s'est battu pour son droit à la liberté, l'Inde a toujours trouvé un prétexte pour préférer l'affrontement.
La plupart des tirs d'obus ont lieu le soir, parfois pendant toute la nuit. Alors nous dormons ici. Nous devons stocker notre nourriture lorsqu'il commence, car sans stock, on ne pourrait pas tenir avec la fermeture des marchés. Beaucoup ont perdu des proches dans ces bombardements, et c'est comme ça que la haine entre nos deux pays ne fait que s'aggraver.
Il en est du Cachemire comme de tant d'autres régions du monde où les frontières ont été mal tracées. Il y a toujours des couturiers prêts à intervenir, une épingle calée entre les dents, écrit à propos des partages de territoire l'écrivaine irakienne Inam Kashashi. Ils tracent des lignes à la craie sur le tissu, ils attrapent les ciseaux, découpent des cartes sur mesure, les manches et le col pour toi, le buste et les bords pour moi, tu prends les blancs, je prends les noirs. Pour le Cachemire, les couturiers en question n'étaient plus là pour se partager la région, mais pour la rendre. Réunis autour de Sir Radcliffe, qui la connaissait très mal, ils ont tenté de trouver de quoi contenter deux États qui prenaient leur indépendance et se séparaient l'un de l'autre pour des questions démographiques et communautaires. L'Inde et le Pakistan, traversés dans leur partie nord par la grande région himalayenne du Cachemire. D'abord attaché à l'Inde en 1947, cet État princier fit très vite l'objet d'une guerre avec le Pakistan, imposant deux ans plus tard une ligne de contrôle qui reste aujourd'hui la plus militarisée au monde. Le Cachemire est encore l'un des symboles les plus douloureux de la partition et de son inachèvement. Privé de statut clair, il nourrit et les discours nationalistes et religieux de part et d'autre et une insurrection séparatiste, et les premières victimes en sont les habitants qui vivent sous un contrôle très strict et très violent de l'armée indienne, subissent ses représailles après chaque attentat et sont pris entre les tirs et bombardements des deux armées de part et d'autre de la frontière quand l'Inde et le Pakistan s'affrontent. Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, chercheuse indépendante associée au programme Asie de l'IRIS. Vous avez fait paraître Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine aux éditions Cartala. Bonjour Gilles Bocquera.
Bonjour.
Bienvenue également dans ce studio. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine. Vous êtes l'auteur aux éditions Thaïlandier des ouvrages Le Pakistan en 100 questions et l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions. C'est peu de dire donc que vous connaissez très bien les deux parties de cette frontière qu'on appelle aussi ligne de démarcation dans sa partie cachemirie. Comment se matérialise d'abord cette frontière au cœur de l'Himalaya, Charlotte Thomas, cette ligne de démarcation entre Inde et Pakistan et que l'on dit parmi les plus militarisées au monde? Ça se voit, c'est une évidence.
Alors, c'est ça, parce que plus largement, en fait, c'est la vallée du Cachemire qui est la zone considérée comme le plus militarisée du monde, qui comprend évidemment la frontière, mais il y a aussi tout l'arrière-pays, entre guillemets. Et par exemple, à Srinagar, les récits vous racontent à quel point, en fait, effectivement, comme il y a pratiquement une personne en habit militaire ou policier pour 10 habitants, si vous voulez, un peu plus, mais donc il y a effectivement une présence militaire qui est vraiment très, très, très manifeste, pardon, que vous voyez au croisement de rue, que vous voyez vraiment absolument partout. C'est comme un petit peu le plan. Ici, j'oublie le terme, quand il y a l'armée française déployée, là, le plan
Vigipirate,
merci, voilà, que vous voyez dans les gares, bah vous imaginez ça, mais en fait dans toute la ville et dans tous les endroits à peu près de la petite vallée du Cachemire, avec parfois des checkpoints, ça dépend en fait le degré de présence et de caractère intrusif de la présence militaire dépend aussi des périodes chaudes ou froides du conflit, mais deux petites nuances à cet égard, c'est que c'est la zone, la frontière la plus militarisée du monde, mais qu'elle n'empêche pas les intrusions parfois de part et d'autre de la frontière. Donc on remet un petit peu en cause aussi le caractère étanche de cette frontière d'une part, et que d'autre part, il y a parfois en fait beaucoup de laisser aller quoi. Je veux dire, ça dépend voilà des zones, et qu'aujourd'hui la zone entière est parfois complètement fermée, quelle que soit la situation.
Donc parfois pas d'échange, zéro échange possible pour les populations. On dit aussi que c'est la zone la plus éclairée au monde. Il y a des spots partout. Comment ça, est-ce que vous en avez vu des images?
C'est lié à la surveillance, en fait. C'est effectivement lié à la surveillance. Enfin, dans les villes, en tout cas, c'est le cas.
Alors, pour comprendre comment a été dessinée cette ligne de démarcation du Cachemire qui fait 770 km, il faut d'abord parler de la frontière plus large entre Inde et Pakistan, Gilles Bokhera, qui est ce Ratcliffe, qui a donné son nom à la ligne Ratcliffe, cette frontière établie en 1947 entre les deux nouveaux États issus de la partition des Indes britanniques, Union indienne et Pakistan. Comment est-ce qu'il en dessine le tracé de cette ligne-là? Quels détails on en a?
Écoutez, c'est une frontière qui s'est dessinée dans la précipitation, en fait. Le départ des Britanniques de ce qu'était l'Empire des Indes s'est fait presque dans l'urgence en quelques mois. Donc la ligne a été décidée et tracée selon des principes évidemment plutôt confessionnels. Faut remonter vu du Pakistan au 23 mars 1940, en fait. C'est ce qui est d'ailleurs le jour de la fête nationale au Pakistan aujourd'hui. Et il y a la Ligue musulmane, à l'époque, a adopté une résolution disant que les régions à majorité musulmane contiguës avaient vocation à être des États indépendants. Ce qui est ce qui donnera naissance d'ailleurs au Pakistan occidental. Et n'oublions pas de l'autre côté, au Pakistan oriental.
Ce qui sera plus tard le Bangladesh.
Voilà. Et de fait de se tracer de la ligne Ratcliffe, il y a eu un transfert de population énorme. Ça considère entre 13, 14, 15 millions d'individus musulmans allant plutôt donc au nouveau pays créé sur une base confessionnelle, et hindous et sikhs qui vivaient dans ce qui est devenu le Pakistan, se rendant en Inde. Évidemment, il y a les tueries énormes qui sont associées à ces transferts de population.
Mais ce Sir Ratcliffe, Sir Cyril Ratcliffe, c'est un juriste britannique dont on dit qu'il connaît très peu la région, voire est-ce qu'il y a au moins 1000 pieds, Gilles Bokhera, ça c'est une question quand même importante. Il est assisté de représentants hindous et musulmans, bien que les décisions finales lui appartiennent à lui. Mais vous dites que ça s'est fait très vite. En combien de temps il a dessiné la frontière?
Le départ des britanniques a été précipité, en fait. En quelques mois, hein, c'était les Mésindiens même, les Pakistanais pensaient eux-mêmes que ça n'irait pas aussi rapidement. Donc ça s'est encore fait une fois dans l'urgence et avec quelques contentieux qui sont liés à cette urgence. Très rapidement, en fait, il y avait 565 États princiers dans ce qui était l'Empire des Indes, dont une partie d'ailleurs de l'Empire des Indes était directement sous l'administration de la couronne britannique. Et on a demandé à ces États princiers de se rallier soit à l'Inde, soit au Pakistan.
Et notamment le Cachemire, qui avait été acheté en 1846 par un souverain hindou à la Compagnie britannique des Indes orientales pour 7,5 millions de roupies et un châle cachemiri, dit la petite histoire. Mais donc le Cachemire, à l'époque, est sommé donc de se décider. Est-ce qu'il va rejoindre l'Inde ou le Pakistan? On va y venir, mais je tiens quand même à cette histoire de dessin de la ligne Ratcliffe qui se fait en deux mois. Le tracé est révélé après l'annonce de l'indépendance, deux jours après le 17 août 47, après des débats restés très opaques. La chercheuse Anne Chastain, qu'on entendra tout à l'heure pour le focus sur un autre sujet, raconte dans la revue Diplomatie que Ratcliffe brûlait systématiquement tout ce qui avait été rédigé le jour même. Donc on ne sait même pas comment il a pris la décision de tracer cette ligne-là. En tout cas, pour des régions, dites-vous Gilles Bokhera, religieuses ou en tout cas communautaires, parce que les musulmans du nord de l'Inde ne se reconnaissent pas dans le projet d'indépendance porté par les responsables hindous, Gandhi, Nehru et tous les responsables indiens de l'indépendance. C'est ça
c'est à nuancer énormément, parce que même sur la notion de confessionnel, il ne faut jamais oublier que le facteur religieux n'a aucune fonction fonction opératoire s'il n'est pas saisi par le politique. Je précise, c'est que hindous, musulmans et chrétiens ont vécu ensemble pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il, enfin, sans qu'il n'y ait aucun problème. Enfin, il y avait des oppositions, mais elles étaient plus d'ordre économique parce que les propriétaires allaient être hindous et les musulmans paysans ou vice versa, je veux dire. Mais les chrétiens sont là depuis, enfin, chrétiens et musulmans sont en Inde, enfin, dans le continent sud-asiatique, depuis la naissance de leurs religions respectives. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. En revanche, au moment de la décolonisation britannique, comme il s'est observé dans tous les phénomènes décoloniaux, hein, c'est la même chose en Maroc, en Algérie, etc., ou ailleurs dans les autres colonisations britanniques, les Britanniques, ayant déjà mis en œuvre le principe de diviser pour mieux régner, ont en fait confessionnalisé leur population, ont mis en place des électorats séparés à partir des années 1910 pour en fait montrer que vous êtes un citoyen hindou qui avait un autre intérêt qu'un citoyen musulman, et c'est ça qui a amené les clivages interconfessionnels. Je précise aussi que tous les musulmans indiens ne sont pas partis vers les deux ailes du Pakistan et vice-versa. Aujourd'hui encore, il reste des hindous et des chrétiens dans le Pakistan ou au Bangladesh, et à l'inverse, il reste l'Inde est le troisième pays musulman du monde. Ceux qui sont partis hors les musulmans qui habitaient déjà dans le futur Pakistan, ceux qui sont partis sont les riches. Voilà, les riches musulmans qui avaient l'occasion de pouvoir partir au Pakistan. Mais il faut vraiment se prémunir d'essentialiser les communautés qui n'en sont pas d'ailleurs.
En effet, la religion, comme vous le dites, est très souvent instrumentalisée en l'occurrence par les politiques. Il y a aussi des considérations culturelles, linguistiques, économiques, dans le sentiment d'appartenance des uns et des autres à tel ou tel État ou telle ou telle région ou communauté, même si c'est très souvent une construction. En tout cas, cette ligne est dessinée comme tombe un coup près, puisque dès qu'elle est officialisée, les hindous, des centaines de milliers d'hindous qui se trouvent côté pakistanais déménagent et vice-versa, avec des déplacements massifs de population que vous rappeliez, Gilles Bokhera. En tout cas, dans l'ensemble, les régions à majorité musulmane sont données au Pakistan et à l'Inde, c'est la majorité hindoue ou sikh. Le Punjab à l'ouest et le Bengale à l'est sont divisés après plusieurs mois de discussion. Ça n'empêche pas des violences intenses dans l'été 47 dans le Punjab des deux côtés. Mais en quels termes se pose la question du Cachemire ? Pourquoi le Cachemire devient une question à part entière, Gilles Bokhera ?
Le Cachemire est dirigé par un maharaja hindou, donc sur une population qui est aux trois quarts musulmane. Ce maharaja, semble-t-il, avait plutôt l'intention d'opter pour l'indépendance, mais comme la décision était prise que les États princiers devaient choisir le Pakistan ou l'Inde, ce qui s'est passé en 1947, c'est qu'en fait, il y a eu des émeutes dans le Punjab, en fait, au sud du Cachemire. Et le Pakistan, qui encore une fois revendiquait de fait la région ce qui était l'état princier du Jammu et Cachemire, ont saisi l'opportunité à travers des tribus pachtounes notamment, de chercher à s'emparer de cet état qui devait leur revenir, en fait, pour eux. Donc c'est l'origine du premier conflit entre l'Inde et le Pakistan à l'automne 1947, qui durera jusqu'au 1er janvier 1949, date où une ligne de cessez-le-feu est établie.
Et quel intérêt à ce maharaja de se rattacher à l'Inde ?
Pour faire face à l'invasion des Pakistanais, enfin invasion, à l'intrusion, voilà, incursion, merci, des Pakistanais des zones tribales, donc à l'autre bout, frontière Afghanistan, le souverain Dogra, qui était déjà qui avait une complicité très forte avec les autorités coloniales quand même, et qui n'est pas un souverain cachemiri, quand bien même il est hindou, mais il n'est pas hindou du Cachemire, il est hindou d'ailleurs, donc ça suscitait aussi des petites crispations vis-à-vis même des hindous cachemiris. En fait, il fait appel à l'armée indienne pour pour se débarrasser entre guillemets des groupes insurrectionnels des zones tribales pakistanaises, faire appel à l'armée indienne, et là le gouvernement indien à l'époque de Jawaharlal Nehru, qui lui-même a des origines cachemiries, accepte d'intervenir à condition que le souverain Dogra Hari Singh donne l'accession de son état à l'Inde et pas au Pakistan. Et c'est comme ça que la première guerre commence, enfin, et se termine aussi d'ailleurs, par la résolution 47 des Nations Unies déposée en 1948, avril 48 je crois, et qui en fait un d'ailleurs des conflits les plus anciens aux Nations Unies avec la Palestine.
Donc c'est tout le Cachemire qui passe côté indien, la partie cachemirie qui se trouve aujourd'hui au Pakistan ne l'est que depuis la fin de la première guerre indo-pakistanaise qui éclate juste après 47 dans le tumulte de cette partition. Cette guerre dure 2 ans, comment va-t-elle dessiner, Gilles Bokhera, la partition du Cachemire telle qu'on la connaît aujourd'hui entre Pakistan et Inde ? Il faut avoir la carte en tête, c'est pas évident, donc allez-y, décrivez-nous ça. Pour faire
simple par rapport à l'ancien État princier, si vous voulez, il y a un tiers qui revient au Pakistan et deux tiers à l'Inde. Mais dans ce deux tiers, il faut voir une chose, c'est que dans ce qu'on appelle, ce qui est actuellement les territoires de l'Union du Jammu et Cachemire...
Donc côté Inde.
Côté Inde, toute la partie qui est maintenant le territoire de l'Union du Ladakh, en fait... est bouddhiste. Et au sud, on a le Jammu qui est plutôt largement hindouiste. Donc, ce qu'on comprend comme le Cachemire aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement la vallée du Cachemire, qui est effectivement très majoritairement musulmane.
Charlotte Thomas ?
C'était juste hindouiste qui sont les... Enfin, hindous pour les partisans de la religion, hindouiste pour la politique. Mais oui, la zone, en fait, ce qui cristallise les tensions... Parce que la zone est divisée au moment de l'arrêt de la guerre sur, en fait, une ligne militaire qui sera reconnue en 72 comme la ligne of control suite à des... Enfin, là, je vais un peu vite, donc je voudrais pas anticiper, mais c'est vraiment très important de mentionner ça par la suite. Mais bref. En fait, la zone comprend, effectivement, si on va un peu vite, le Ladakh bouddhiste, des hindous et des musulmans dans la vallée du Cachemire. Mais ce qui cristallise effectivement, c'est l'identité musulmane de la vallée, parce qu'en fait, et je pense que là on va rentrer petit à petit aussi dans la construction nationale des deux États, parce que je crois que c'est ça qui nous intéresse aussi dans cette frontière. Cette frontière, c'est un espace physique entre deux États, mais c'est aussi parfois un espace symbolique qui est importé dans la construction nationale. Et si vous voulez, pour aller vite, le Cachemire devait revenir en intégralité au Pakistan parce que c'était des musulmans, mais pour les Indiens, à l'époque dans la construction de Nehru, comme c'était un État séculariste, c'est-à-dire qui reconnaît toutes les religions, y compris, toutes les religions, pardon, à égalité, hindous, chrétiens, pardon, et musulmans, il a importé pour Nehru que le Cachemire soit rattaché à l'Inde comme gage de son sécularisme, c'est-à-dire aussi vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de l'étranger. Il faut quand même se rappeler qu'on est au moment de la décolonisation. Comme un petit peu la némésis, si vous voulez, l'exact opposé du Pakistan sur la scène internationale. C'était chacun mettait ses crédits en avance. Et à cet égard, il était important vraiment que cet État musulman, auquel Nehru était attaché, soit rattaché à l'Inde.
Donc ce n'est pas qu'une question religieuse, en effet, c'est aussi une vision de la citoyenneté, puisque à l'époque en Inde, le parti du Congrès, Gandhi puis Nehru, défendent l'idée d'un État uni qui rassemble les communautés du sous-continent, quand la Ligue musulmane, elle, défendait la création d'un État pour les musulmans, avec cette peur, comme vous le rappelez, d'être marginalisé dans une Inde majoritairement hindoue. En tout cas, un référendum était censé avoir lieu pour permettre aux habitants du Cachemire de décider de leur sort, qui n'a finalement jamais été organisé d'un côté ni de l'autre. On en parlera, pas de référendum, mais des affrontements récurrents. En mai dernier, l'Inde et le Pakistan se sont encore confrontés pendant 4 jours. L'Inde ripostait à un attentat commis contre des touristes au Cachemire, qu'elle attribue toujours à un groupe terroriste dirigé par le Pakistan. Attaques de drones, tirs de missiles, barrages d'artillerie qui ont fait plus de 70 morts dans les deux camps.
Nous voulons aller voir ce qui peut être récupéré et reconstruit. Que le bus soit tiré d'ici ou depuis de l'autre côté, ce sont les gens ordinaires qui meurent.
C'est une bonne chose que le Pakistan et l'Inde aient accepté de faire la paix, mais le frère que j'ai perdu ne reviendra jamais. Nous vivons au Cachemire depuis de nombreuses années et ce conflit ne cesse de ressurgir. L'oppression est permanente.
Témoignage d'un habitant du Jammu et Cachemire en Inde et de l'Azad Cachemire au Pakistan, recueillis tous les deux par la radio-télévision suisse en juin dernier. Il y a eu un accord de cessez-le-feu le 10 mai, Charlotte Thomas. Quand attentat il y a dans le Cachemire indien, est-ce que les terroristes sont le plus souvent des Pakistanais qui ont réussi à franchir la ligne de démarcation dont vous nous rappeliez tout à l'heure combien elle est militarisée, ou le plus souvent ce sont des Cachemiris?
Il y a une évolution en fait. Il est indéniable que dans les années 90, le Pakistan a formé, entraîné et des combattants qui ensuite ont passé la frontière. Il est important de rappeler que ces premiers combattants, c'était des Cachemiris qui ont quitté l'Inde vers le Pakistan pour rentrer dans la lutte armée après qu'on leur ait volé des résultats d'élections. C'est très important parce que ça montre en fait pourquoi New Delhi a toujours fermé la voie politique à l'expression des volontés des citoyens cachemiris et que petit à petit on avance dans la violence. En fait, là, moi j'ai travaillé sur l'entrée en violence, elle est toujours fonction de la répression d'État. Une fois qu'on a posé ça. Depuis les années, donc il y a une période insurrectionnelle très très forte, avec une déstructuration totale de la société cachemirie, parce qu'aussi les autorités ont corrompu des citoyens qui sont devenus des, comment dire, Ikhwan, c'est-à-dire des gens qui filaient des informations à l'armée, enfin bref, contre leur propre population. Donc la société déstructure. Voilà, merci, c'est le mot que j'avais, mais je n'osais pas. Merci, voilà. Mais en revanche, depuis les années 2000, et très notamment 2010, le militantisme local, il a évolué. C'est-à-dire que la répression d'État, de l'État indien est tellement forte qu'il y a une désaffiliation croissante des citoyens cachemiris envers leur État, y compris parce qu'ils sont maintenant victimes de violences quand ils sortent du Cachemire, c'est-à-dire dans le reste de l'Inde, où ils sont considérés comme des traîtres, des gens qui vont trahir, des citoyens pakistanais qui se déguiseraient, enfin, pour aller vite. Donc depuis 2010, les militants, ils sont cachemiris en fait. Et ils sont très notamment, ça se voit dans la localisation des attaques, parce que les militants cachemiris sont plus dans la vallée du Sud, par opposition aux soldats infiltrés qui sont plus, enfin aux combattants infiltrés qui sont plus dans la partie nord. Et effectivement, très notamment, c'est ce qui s'est vu lors de l'attentat récent, Narendra Modi a tout de suite attaqué le Pakistan. Aujourd'hui, il n'a toujours fourni aucune preuve tangible de l'implication de l'État pakistanais, mais ça a surtout permis de réprimer la population. C'est exactement ce qui s'est passé, y compris aussi au niveau national, puisque tous les gens indiens qui ont questionné les failles de sécurité de l'appareil politique, qui mettent en exergue aussi le fait que les Cachemiris sont trop réprimés, ont été arrêtés. Et donc, j'en termine là-dessus. Ça montre juste que c'est bien opportun de dire que c'est la puissance étrangère, alors qu'en fait, c'est un conflit politique national.
Là, en l'occurrence, pardon, l'attentat d'avril dernier à Pahalgam contre des touristes hindous, il faut rappeler en quelques mots ce qui s'est passé. Trois hommes armés ont surgi de la forêt, abattu froidement dans une prairie 26 hommes qu'ils avaient préalablement séparés des femmes et des enfants, mais aussi ils n'ont isolé que les hommes qui ne savaient pas réciter l'appel à la prière des musulmans. Ce sont eux qu'ils ont exterminés de sang-froid. Qui sont aujourd'hui, Gilles Bokhara, même question qu'à Charlotte Thomas, mais vu peut-être plus du point de vue du Pakistan, qui sont aujourd'hui les combattants du Cachemire et leur lien avec Islamabad, avec le Pakistan?
Et on sait qu'il y a eu des attentats commis sur le sol indien, notamment les fameux attentats de novembre 2008, dont la responsabilité a été imputée au Lashkar-e-Toiba, qui est un des deux groupes combattants majeurs venus du Pakistan, avec le Jaish-e-Mohammed. Le Lashkar-e-Toiba, en fait, a été créé dans les années 80, au temps de la lutte contre l'occupant soviétique en Afghanistan, et après le retrait en 89 des soviétiques d'Afghanistan, la direction, l'establishment militaire pakistanais a trouvé bon de recycler en ses forces combattantes pour qu'ils aillent faire le coup de feu côté Cachemire indien. L'autre groupe, Jaish-e-Mohammed, à qui on impute aussi nombre d'attentats sur le sol indien, a plutôt été créé en 2000, en fait. C'est une création plus récente, mais là aussi avec l'idée de combattre pour la cause cachemirie en faveur du Pakistan, évidemment.
On avait beaucoup parlé en 2019 de ce que l'État indien avait révoqué, le Premier ministre Narendra Modi avait révoqué le statut particulier du Cachemire et avait militarisé encore plus la zone en supprimant cet article 370 qui accordait un statut spécial au Jammu et Cachemire, qui lui garantissait une autonomie formelle et la capacité de formuler des lois très importantes. Est-ce qu'on peut, Charlotte Thomas, être sûr, affirmer avec certitude que le terrorisme Cachemiri ou les groupes armés dont vous parliez tout à l'heure se sont aussi, non pas réveillés, mais se sont densifiés, ont pu recruter à partir de ce moment-là?
Si, tout à fait, parce qu'en fait, il faut rappeler quand même, parce que je ne sais pas si on l'a dit très clairement, que la résolution 47 des Nations Unies prévoyait un référendum d'autodétermination qui devait se tenir, où les Cachemiris devaient ou bien définir leur rattachement au Pakistan ou bien à l'Inde.
Il n'y avait pas l'option du Cachemire indépendant.
Exactement, voilà, c'est ça qui est important. Exactement, c'était le point que je voulais signaler. Donc, ce référendum, par ailleurs, donc au-delà de votre point, ce référendum ne s'est jamais tenu. Pourquoi? Parce que les élections de 1951 qui donnaient une voix importante à des partis proches du gouvernement de New Delhi. Du coup, New Delhi a dit « Ok, l'affaire est réglée, ça veut dire que les Cachemiris sont pour leur rattachement à l'Inde. » Je vais vite. Pour revenir, et ça, c'est toute la trajectoire. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que depuis les années 50, du coup, toute la trajectoire de New Delhi vis-à-vis du Cachemire consiste à dire que le référendum n'aurait aucune valeur, puisqu'en 1951, de toute façon, les Cachemiris ont considéré qu'ils étaient rattachés à New Delhi de facto. C'est ça, le point sous-jacent. En revanche, c'était avec l'article 370 et surtout l'article 35A qui faisait que seuls les Cachemiris pouvaient acheter du foncier au Cachemire. Et ça, c'était très important parce que le Cachemire est une zone riche en minerais, en hydroélectricité et avec une agriculture unique en Asie du Sud. Et que donc, ça devait permettre de respecter l'équilibre démographique de la vallée du Cachemire d'une part et d'autre part de permettre son développement autochtone. Ça a été supprimé en 2019.
Et vous écrivez dans un article récent que depuis, en 6 ans, près de 85 000 Indiens se sont établis au Cachemire.
Exactement. Et c'est, en fait, il y a eu une première revendication de ces attentats par le Cashmere Resistance Front qui ensuite a été démenti. Mais moi, je veux dire, les situations de ni guerre ni paix sont très floues. Les revendications aussi. Les groupes terroristes pakistanais qu'on mentionnait tout à l'heure ont toujours revendiqué avec force les attentats qu'ils ont commis. Ce qui n'est pas le cas là. Ce communiqué auquel je faisais référence ne mentionne que l'article 35A et n'explique, entre guillemets, hein, il ne s'agit pas du tout de légitimer de la violence terroriste, mais n'explique ce recours à la violence qu'en opposition à la décision de 2019 et à la suppression des droits économiques et politiques des Cachemiris. Je pense vraiment qu'il faut avoir ça en tête et ne pas du tout essentialiser les choses entre une identité musulmane ou pas. Enfin, c'est pas la question. On rappelle quand même qu'au Cachemire, il y a une très très forte minorité sikh, donc qui sont assimilés à des hindous aujourd'hui par le pouvoir en place. Or, ces gens-là sont restés en dehors des déplacements de population de 1990, l'insurrection civile, etc. Donc vraiment, il ne faut pas essentialiser les choses et vraiment avoir bien en tête que, comme vous le mentionnez, les Cachemirais aujourd'hui, et en faisant gentiment référence à mon papier, craignent en fait un effacement et on retrouve dans le discours, et j'en termine, dans le discours des autorités indiennes hindouistes aujourd'hui, donc qui sont favorables à une Inde hindoue débarrassée de ses minorités chrétiennes et musulmanes, il y a beaucoup de parallèles qui sont dressés avec la situation en Cisjordanie et depuis le 8 octobre avec Gaza. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire ça. C'est dit par des autorités, des gens qui soutiennent le parti au pouvoir, c'est-à-dire effacer, diluer, entre guillemets, la présence musulmane de la vallée du Cachemire pour en transformer un peu la démographie.
Mais des Cachemiris, pour certains, quand ils sont musulmans, des Cachemiris tout court, qui se sentent parfois plus proches des Gazaouis en Palestine, dont en effet ils défendent le nom et les droits à chaque fois qu'ils peuvent s'exprimer, que des musulmans indiens, par ailleurs réprimés dans le reste de l'Inde. On parlera sans doute, Charlotte Thomas, de cette dissonance-là ou cette dissociation. En tout cas, Gilles Bokhera, comment la question du Cachemire alimente le nationalisme aussi du côté du Pakistan, dont vous rappeliez tout à l'heure qu'il a été créé sur une base confessionnelle, en tout cas sur l'idée que hindous et musulmans ne sont pas faits pour cohabiter.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un Kashmir Solidarity Day qui est fêté chaque année depuis 1990, c'est le 5 février. Évidemment, la question du Cachemire est quasiment existentielle pour le Pakistan, parce que ça justifie la distance même du pays, sur une base, encore une fois, à l'origine d'une terre pour les musulmans qui seraient martyrisés dans une Inde dominée par les hindous. Effectivement, le Pakistan, il y a aussi une justification qui sert aussi les affaires de l'armée pakistanaise, évidemment. Créer un ennemi, ça justifie qu'on ait un budget significatif, ce qui n'est pas une chose donnée dans la situation financière actuellement du Pakistan. Donc avoir un ennemi et avoir une cause à défendre qui puisse cimenter la population autour de la question du Cachemire, c'est un point sur lequel l'establishment pakistanais tient beaucoup.
L'establishment pakistanais est aussi une société pakistanaise. Alors c'était surtout en effet dans les années 90, Charlotte Thomas, vous le disiez tout à l'heure, que le Pakistan formait ou que des groupes armés se formaient depuis le Pakistan ou l'Afghanistan pour aller se battre au Cachemire, comme le raconte par exemple cet ancien combattant. Il travaille aujourd'hui dans une ONG, mais il raconte comment dans les années 90, il s'était lui-même engagé pour la cause.
En 1994, lorsque j'étais à l'école en quatrième, on n'arrêtait pas de lire dans les journaux les atrocités qui étaient commises du côté indien du Cachemire. Pendant les vacances d'été, tous mes amis ont décrété que le Cachemire, c'est aussi notre pays et que les habitants de l'autre côté sont nos frères et nos sœurs. On devait donc les aider. Et nous sommes donc partis en Afghanistan pour suivre une formation où nous avons appris à utiliser un AK-47. Lorsque nous avons atteint le Cachemire indien, la population locale nous a beaucoup appréciés, en particulier les jeunes. Un jour, on s'est battu pendant 4 à 5 heures et nous avons tué au moins 7 ou 8 soldats hindous de l'armée indienne. À ce moment-là, nous ne savions pas que la guerre durerait si longtemps. C'est notre cinquième génération qui se bat pour la liberté. Tant que cette question du Cachemire ne sera pas résolue, cette insurrection continuera et les nouveau-nés deviendront également des combattants de la liberté.
Un Cachemiri pakistanais, ancien Moudjahidine, qui raconte, comment on dit, Mouadjin, c'est ça, au Pakistan? Non, on dit comme ailleurs. Ok, ça s'écrit pas pareil. C'est pour ça, qui raconte avoir fait le djihad dans le Cachemire indien, sur la chaîne Investigation, ce documentaire Inde versus Pakistan, conflit au Cachemire. Charlotte Thomas, est-ce que pour côté indien aussi, on peut parler d'une sorte de cause sacrée que de celle du Cachemire?
Oui, et juste pour compléter aussi sur la création du Pakistan, il faut savoir que le Pakistan utilise aussi le conflit du Cachemire pour dissimuler la répression des droits humains qu'il oppose à certaines de ces minorités, très notamment les Baloutches et au Baloutchistan, le Pakistan, voilà. Et ça, c'est très important. Le Pakistan réprime très fortement sa population Baloutche, qui est soutenue par les Indiens en sous-main, enfin, dans les discours, etc. Et ça lui permet, du coup, en déportant complètement l'attention sur les abus aux droits humains dont se rend coupable la seule démocratie de la région, ce qui est vrai par ailleurs. Des abus aux droits humains, sur le Cachemire, ça lui permet, vous voyez, de dissimuler un peu lui-même ses propres apories et les abus aux droits humains, parce que le Pakistan est loin d'être un État progressiste au regard de sa population. Je crois que c'est très important de l'avoir en tête, parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi le Pakistan a toujours voulu internationaliser la cause du Cachemire. Il en parle tous les ans aux Nations Unies, à l'inverse des Indiens, qui est exactement l'inverse. Les Indiens ont toujours voulu fermer, et ça rejoint votre question, les Indiens ont toujours considéré que le problème, entre guillemets, Cachemire, était au mieux un problème bilatéral avec le Pakistan et au pire, entre guillemets, une situation nationale qu'il fallait gérer en national, parce qu'en gros, c'était une insurrection d'une population nationale. Donc ça, c'est très important et ça rejoint, du coup, alors, il y a deux entrées dans ce que vous me demandez, c'est-à-dire il y a l'entrée par les autorités, donc est-ce que pour les autorités indiennes, quelle que soit la couleur du gouvernement en place, le maintien du Cachemire dans l'Inde a toujours été structurant, et le Cachemire simultanément a toujours été appréhendé par le prisme strictement sécuritaire et économique, c'est-à-dire exploitation économique de la région et en gros, on considère, même depuis Nehru, le Congrès, etc., hein, que les Cachemiris sont sujets de suspicion. Ce ne sont pas des citoyens dans lesquels on peut avoir pleinement confiance. Ce à quoi le BJP, le parti nationaliste hindouiste, au pouvoir depuis 2014, rajoute une dimension identitaire que j'ai évoquée tout à l'heure et de dilution de la présence musulmane. Pour parler vraiment de la politique contemporaine, a fortiori depuis 2014, la suppression des statuts, du statut spécial du Cachemire d'une part et d'autre part, son intégration démographique pleine et entière au sein d'une Inde hindoue, puisque c'est ce à quoi aspire le gouvernement, est crucial. Puisque c'est vraiment dans le cœur du parti, de la politique du BJP depuis sa création.
Vous racontez, Charlotte Thomas, dans vos travaux, le règne des punitions collectives depuis l'avènement du BJP en 2014 de Narendra Modi. Si un village a abrité un combattant, l'armée indienne va forcer les maisons, brûler les cultures, attraper les jeunes et s'en servir comme de boucliers humains. Et vous racontez également ces femmes qui se rassemblent tous les vendredis pour demander ce que sont devenus leurs hommes du Cachemire. Le Pakistan, cette fois, Gilles Bokhera, comment traite-t-il, entre guillemets, les habitants du Cachemire pakistanais, puisque au Baloutchistan, ça n'est pas très reluisant dans cette autre province du nord du Pakistan? Est-ce qu'il donne des raisons aux habitants du Jammu et Cachemire de passer sous administration pakistanaise? Est-ce qu'il leur donne cette envie-là, dans la façon dont il traite les habitants du Cachemire pakistanais?
Le Cachemire pakistanais, c'est en fait l'Azad Cachemire, qui a un statut propre au sein de la constitution pakistanaise, avec un propre premier ministre, en fait. Et il y a l'autre partie, c'est le Gilgit-Baltistan, qui a un statut aussi particulier au sein du Pakistan, car il n'a pas de représentation apparemment au Parlement national, par exemple. Le sort de cette région du Cachemire pakistanais, évidemment, n'est pas aussi foncièrement favorable à leur intégration, même au sein de l'État pakistanais, en fait.
On n'a pas encore évoqué, et elle est très importante, la question des ressources, notamment le fait que les habitants du Cachemire dépendent des fleuves qui prennent naissance sur le plateau tibétain. En tout cas, on parle souvent du Cachemire comme d'un château d'eau, mais les cours d'eau ne prennent pas leur source au Cachemire. Le plus souvent, ils ne font qu'y passer, entre guillemets. Il y a des minerais également au Cachemire. Comment cette question des ressources compte dans ce conflit, Gilles Bokhara?
Ah ben, il est important et de plus en plus important, puisque l'Inde a décidé, après l'attentat de Pahalgam, de suspendre le traité de l'Indus qui remonte à 1960, qui divisait les eaux de l'Indus et ses affluents entre l'Inde et le Pakistan. Évidemment, avec la crainte que ça génère au Pakistan, qui dénonce d'ailleurs un retrait unilatéral de l'Inde de ce traité, vu que, comme vous le dites, il y a la vocation du Cachemire à être le château d'eau du sous-continent, enfin, et notamment d'alimenter toute la vallée de l'Indus côté pakistanais, qui est fondamentale pour la survie de l'État pakistanais. Vu que 90% de l'eau utilisée pour la culture pakistanaise vient de l'Indus et de ses affluents.
C'est la première fois que Narendra Modi suspendait ce traité de l'Indus qui jusqu'à présent garantissait quand même un partage des eaux. C'est l'un des rares mécanismes de coopération stable entre les deux pays, Charlotte Thomas.
Enfin, ouais, ce traité signé en 1960. Il avait survécu à trois guerres parce qu'il contient aussi des mécanismes de désescalade des conflits qui n'ont pas du tout été activé, ni par la banque, enfin, traité signé sous l'égide de la Banque mondiale, hein, donc il y avait quand même des recours. Et cette suspension est illégale de la part de l'Inde, puisque le traité ne comprend pas, en fait, de possibilité de suspension. Et j'ajoute aussi que dans le cadre d'un affrontement militaire, l'Inde a un affrontement militaire qu'elle a déclenché sans preuve, d'une part, et d'autre part, en préemptant une ressource vitale pour des civils, dans le cadre d'un affrontement militaire, ce qui questionne un petit peu quand même le respect du droit humanitaire. Effectivement, c'est crucial, parce que dans la zone dont on parle, où on ajoute la Chine, le plateau tibétain, 30 à 40% de l'humanité dépendent des ressources en eau de cette région. Pour le Pakistan, dont l'agriculture repose à 90% sur l'irrigation, c'est une question de vie ou de mort. Il y a déjà, en fait, des petites... Et si vous voulez, dans ce qui s'est passé, parce que l'Inde a fermé certains robinets, déjà un petit peu, il ne s'agit pas de dire que les gens vont mourir de soif tout de suite le lendemain, parce que de toute façon, si l'Inde a fermé entièrement les barrages, elle s'auto... inonderait, donc c'est pas possible. Mais en fait, quand vous désorganisez toute une irrigation, vous mettez en péril les ressources agricoles et donc la survie alimentaire et la capacité alimentaire. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Il y a déjà des rapports du côté pakistanais qui sont sortis en cet égard.
Donc vous affamez avant d'assoiffer.
C'est ça. Et je termine juste sur, en fait, l'Inde essayer de renégocier par la force ce traité depuis les années 2010. Là, moi, j'émets l'hypothèse que dans une perspective très trumpienne, l'affrontement militaire est en fait un moyen de négocier un truc économique, en fait, un problème économique, voire de survie. Mais surtout, je trouve que c'est très questionnant parce que si la Chine fait la même chose, enfin, je veux dire, comment ça va se passer dans toute cette région? À un moment donné, si on s'assoit mutuellement et la Chine met une pression sur l'Inde de l'autre côté de la frontière, ça risque d'être un vrai problème, y compris pour nous.
Gilles Bokhara,
que pensez-vous? Je voulais simplement dire que le Pakistan est déjà une situation de stress hydrique dramatique. Hein. La disponibilité d'eau par habitant a diminué, été divisée par 5 depuis 1947. C'est environ 1000 m3 d'eau par an par habitant au Pakistan. Donc c'est une question, encore une fois, fondamentale pour le Pakistan, ces questions du partage des eaux de l'Indus, évidemment.
On parlera dans le focus, dans Culture Monde, dans un instant, de la mémorialisation, comme on dit, de la partition des Indes, et notamment de cette partition plus large que la question simple du Cachemire, mais entre Inde et Pakistan, avec la chercheuse Anne Castin, juste après cet artiste du Cachemire. Elle vit au Jammu et Cachemire, elle s'appelle Yawar Abdal.
Aşık suyuz aşkı sıti teze sonzan prazilis panun pan aşık suyuz aşkı sıydı teze sonzun Brazilis onun pan aşkı do diyesi vanici sezi aşkı do diyesi Vanici sezi suydu vadi la makan suyadı vadi la
Le chanteur cachemiri Yawar Abdal, originaire de Srinagar, au Jammu et Cachemire, cette chanson date d'il y a quelques semaines. Cachemire, les plaies ouvertes de la partition, c'est le deuxième épisode de notre série sur les frontières en Asie, des conflits en héritage. Le Cachemire, symbole d'une partition inachevée, en train des Pakistans et dont la mémoire se transmet notamment par la littérature.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
En 1947, la partition en train des Pakistans provoque un exode massif, des massacres, des viols. La mémoire vive de ce traumatisme, faite d'objets, de récits et de silences, s'est néanmoins inscrite, notamment dans la littérature. Bonjour Anne Castin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CNRS, vous travaillez au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes et vous venez de publier Littérature au pluriel de la partition de l'Inde 1947-2013, les témoignages paradoxaux aux éditions classiques Garnier. D'abord Anne Castin, quand la littérature indienne mais aussi pakistanaise ont-elle commencé à raconter cette histoire-là et dans quels termes, comment ?
Alors, en fait, la littérature a commencé très tôt à raconter l'histoire de la partition, et c'est ça qui est très intéressant, parce que elle n'a pas suivi, disons, la même trajectoire que l'histoire des historiens, puisqu'on sait que l'histoire des historiens a vraiment pris en charge la partition à partir des années 90, alors que la littérature, dès 47, même juste avant la partition, au moment juste avant le moment précis de la partition, c'est-à-dire le 15 août 47, la littérature avait déjà commencé à raconter ces massacres que vous évoquiez plus tôt, les exils, les viols notamment, et ce jusqu'à très récemment. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à la littérature, c'est que la littérature a pris en charge la partition en 47 et n'a jamais cessé de la raconter, mais l'a racontée très différemment au fil des, on peut dire, même générations. La partition, c'est il y a presque 80 ans, donc effectivement, on l'a pas racontée de la même façon en 47 ou en 2013, vous citiez mon ouvrage récemment. Effectivement, moi, je me suis arrêtée en 2013 parce que il y a encore des textes aujourd'hui qui sont écrits sur la partition, qui raconte de nouveau la violence, l'exil, etc., mais qui est raconté non pas par les témoins, les rescapés, ceux qui ont fait véritablement l'expérience de la partition, mais la troisième génération, la deuxième ou la troisième génération.
Parlez-nous par exemple de quelques-uns de ces livres qui vous tiennent à cœur, Les voix de la partition, Les voix VOX, Une division des cœurs par exemple, d'Urvashi Boutalia qui a paru dans les années 80, la fin des années 80 je crois en Inde, mais en France il a été traduit aux éditions Actes Sud en 2002. Que raconte son autrice ?
Alors ça, c'est un ouvrage qui est particulièrement intéressant justement parce qu'il a été publié dans les années 80-90 par quelqu'un qui elle-même n'a pas fait l'expérience de la partition, mais dont les parents ont fait l'expérience de la partition. Et ça, c'est l'un des premiers ouvrages à vraiment révéler, disons, une histoire populaire et une mémoire collective encore très très présente dans les années 80-90 de la partition. Et l'objet en fait de cet ouvrage, c'est de collecter des histoires et de montrer, notamment, de révéler en fait l'histoire des femmes. Là, c'est vraiment focalisé sur l'histoire des femmes et des enfants. Alors, l'histoire des femmes, elle a été énormément, disons, révélée, examinée depuis, et à partir effectivement des travaux de Rouvache et Battaglia, mais après, là aussi, que la littérature l'a déjà racontée. Mais l'histoire des enfants, ben là, ça reste aussi une histoire qui n'a pas été très très bien révélée, en dépit des premiers travaux de Rouvache et Battaglia.
Des femmes.
Donc, elle collecte des histoires. Voilà, des femmes violées, des femmes kidnappées. En fait, elle a montré à quel point le corps féminin, les femmes et les corps féminins ont servi, si on peut dire, de marchandises dans cette histoire nationale où effectivement la possession de la matrice avait une valeur symbolique très très forte. Quoi. Bon, c'est arrivé dans d'autres contextes, mais effectivement, c'est très frappant de voir à quel point les femmes ont subi la partition.
Vous parlez aussi de ce livre récent, Vestiges d'une séparation. Vestiges au pluriel, encore une fois, d'Anshal Malhotra, qui a été traduit en français il y a 4 ans par les éditions Héloïse d'Ormesson. Donc, cette écrivaine est une petite fille de réfugiée. Elle cherche à faire parler les personnes qui ont vécu la partition et elle le fait à travers des objets. Quels objets, en général, choisissent les personnes qu'elle rencontre ?
Alors, ça aussi, c'est un ouvrage intéressant parce que, de nouveau, on est dans une autre période. Effectivement, il a été publié il y a quelques années par cette très jeune femme, elle doit avoir à peine 30 ans, qui elle-même est petite fille de réfugiés, et qui a participé à cette vaste histoire orale, parce que l'histoire de la partition, elle a été énormément racontée, quoi, elle a été énormément écrite, si on peut dire, paradoxalement, par des témoignages. Et donc son approche, elle est un petit peu différente, puisque c'est celle d'une histoire matérielle. Elle demande à des personnes qui ont été exilées en 47, qui se sont exilées en 47, de produire un objet qu'ils ont ramené en fait de l'autre côté de la frontière. Alors très généralement sont des, alors soit des vêtements, soit des bijoux, soit des ustensiles de cuisine, et très fréquemment des ustensiles de cuisine, puisque elle montre, elle et d'autres d'ailleurs, que garder la cuisine, garder les aliments du passé, c'est symboliquement très très important. On essaie de retrouver le goût du passé, si on peut dire, à travers ce qu'on va cuisiner.
Pour raconter donc cette, voilà, cette littérature qui est la preuve d'une mémoire encore vive, en tout cas qui continue à s'écrire et qui raconte cette indicible tristesse qui réside au cœur de l'idée de l'Inde. Vous citez le politologue Sunil Kilnani dans votre article pour la revue Diplomatie. Vous travaillez aussi, Anne Castin, sur un camp de réfugiés de la partition à Delhi. Peut-être en quelques mots, où était ce camp, quelle trace surtout en existe encore, voire existe-t-il toujours en tant que tel, comme les camps de réfugiés palestiniens de la Nakba se sont pérennisés au Liban, par exemple.
Tout à fait. Ben, enfin, ça, c'est aussi une histoire qui est totalement paradoxale, puisque, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu 10 millions de personnes déplacées en 47. Donc, 10 millions de personnes, certaines se sont, débrouillées et une grande, grande partie a été accueillie dans des camps de réfugiés immenses qui ont duré entre 6 mois et 7 ou 8 ans pour celui précisément sur lequel je travaille, qui s'appelle le camp de Kingsway à Delhi, qui est un camp qui a accueilli 500 000 personnes entre 47 et 55. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'histoire de la partition a été très très examinée, très très fouillée, très très écrite, très très racontée, mais les camps, qui sont quand même une partie fondamentale de cette histoire, n'ont pas du tout été documentés. Donc mon travail actuel, effectivement, c'est d'essayer de documenter avec le matériel, tout le matériel possible, les histoires de vie, les archives. Il existe des bâtiments entiers d'archives sur ce camp, d'ailleurs, qui n'ont jamais été exploités, de montrer à quel point, cette histoire, elle peut continue à être écrite 80 ans après.
Et l'Inde, je ne sais pas si le Pakistan aussi, et qui vraiment est à l'initiative de cela, mais il y a un projet qui s'appelle 1947 Partition Archive. Est-ce que vous contribuez à ce projet-là, qui consiste à rassembler toutes les archives qu'on peut récolter sur cette partition? Est-ce que c'est quelque chose que les musées également, de part et d'autre du Cachemire et de l'Inde et du Pakistan, s'emploient à raconter?
Alors ce projet dont vous parlez, c'est un projet d'histoire orale de nouveau qui a été, je crois, conçu par des personnes qui ne résident pas en Asie du Sud, qui font partie de la diaspora, je crois, aux États-Unis, et qui visait justement à rassembler des récits, des récits de vie, en fait, de personnes qui sont toujours en Asie du Sud ou pas. Et effectivement, je crois qu'ils ont récolté des dizaines de milliers d'histoires, j'ai pas le chiffre précis en tête, et ils ont produit une archive, ce qu'ils appellent une archive, qui n'est pas une archive écrite, mais une archive orale. Il y a un site sur lequel on peut écouter, effectivement, les récits de ces personnes. Quant au musée, alors ça, de nouveau, c'est des initiatives qui sont très très récentes. Il y a un grand musée de la partition qui a été créé à Amritsar, au Punjab, dans cette région qui a particulièrement été touchée par la partition en 2017. Puis un autre musée de la partition a été ouvert à Delhi en 2023. Ils sont assez similaires. Ils racontent pas des histoires qu'on ne connaît pas déjà. Mais là aussi, l'objet, l'histoire matérielle, elle a une importance fondamentale, puisque finalement, ce qu'on trouve dans ces musées, ce sont plutôt des objets qui a priori sont totalement insignifiants, mais qui ont été ramenés d'une part et d'autre de la frontière.
Merci
des
beaucoup.
Objets de cuisine.
Pour rappeler ce goût d'avant, vous nous le disiez. Merci beaucoup Anne Castin, chercheuse au CNRS. Vous venez de publier Littérature de la partition de l'Inde 1947-2013, les témoignages paradoxaux aux éditions classiques Garnier. Sur la question de la mémoire, on entend bien Gilles Boquera et Charlotte Thomas que ce sont plutôt des Indiens ou des Pakistanais la diaspora qui ont lancé ces projets de récolte d'archives. Ça reste très sensible sinon en Inde et au Pakistan. Alors Narendra Modi a créé une journée de la mémoire de la partition, mais il me semble, Charlotte Thomas, qu'elle vise surtout à valoriser le martyre des hindous de l'Inde. Il y a une instrumentalisation de la mémoire aussi de cette guerre-là.
On rappelle que c'est 1 million de personnes qui ont péri. Donc c'est le plus grand transfert de population avec le plus grand taux de mort dans le monde contemporain. Donc oui, il y a une instrumentalisation, et pour aller très vite, mais ça s'illustre par le fait que des personnes un petit peu sujette à caution à l'époque, par exemple l'assassin de Gandhi est remis au goût du jour aujourd'hui. Enfin, vous voyez, donc en fait des personnes subversives, voilà, c'est le terme que je cherchais, sont remis aujourd'hui au goût du jour et avec la volonté d'effacer d'autres types de combattants de la partition.
Gilles Boquera, également au Pakistan, l'instrumentalisation de cette mémoire.
Ah oui, bah tout à fait. On l'a dit dans cette émission, hein, la question de la partition n'est pas achevée au Pakistan, vu que le Cachemire n'est pas un problème réglé en leur faveur. Hein. Je voudrais revenir sur un point là.
En quelques mots, c'est la conclusion
de l'émission.
Oui, juste
pour le rôle du changement climatique sur cette frontière. Le Pakistan connaît actuellement des inondations assez catastrophiques. Bon, pas celle de 2022 où il y avait 33 millions de personnes concernées, mais encore une fois, le contrôle des débits des fleuves prend une importance cruciale, le Pakistan accusant notamment sur cette question l'Inde de ne pas l'avoir informé réellement de ses lâchers d'eau.
Merci beaucoup. Et en effet, la question de l'eau qui reste primordiale dans ce conflit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Gilles Boquera, vous êtes l'auteur aux éditions Talendier des ouvrages Le Pakistan en 100 questions et l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la FRS. Merci Charlotte Thomas.
Merci à vous. Merci.
Chercheuse indépendante associée au programme Asie de l'IRIS, Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Votre livre a paru aux éditions Cartala. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'Espagne demande l'exclusion d'Israël des compétitions sportives internationales. Catherine Dutu.
Et la question du boycott de l'Eurovision doit se poser si l'État hébreu n'en est pas exclu, affirme le ministre espagnol de la Culture, cité par les quotidiens La Razón et La Voz de Galicia. une question ce matin. Est-ce qu'avec la famine reconnue par l'ONU, les 65 000 Gazaouis tués recensés par le Hamas, alors que la revue scientifique de Lancet parle, elle, d'un bilan 40% plus élevé, avec les corps toujours ensevelis sous les décombres dans l'enclave palestinienne, est-ce qu'avec la guerre à Gaza, Israël est en train de vivre son moment sud-africain ? Cette combinaison de pressions politiques, de boycotts économiques, sportifs et culturels qui a poussé l'Afrique du Sud à abandonner l'apartheid. El País et la BBC énumèrent ce matin les mesures prises ces derniers mois à l'encontre du gouvernement Netanyahou. L'Espagne vient d'annuler un contrat de près de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne dans la foulée d'un embargo sur les contrats d'armement. Il a été confirmé la semaine dernière, mais un décret royal est toujours en préparation car c'est une question hautement technique, note El País. Après l'Irlande et la Slovénie, la Belgique a annoncé à son tour une série de sanctions et vient d'interdire l'importation des marchandises produites ou transformées dans les territoires occupés illégalement par Israël, comme en Cisjordanie, précise le quotidien belge Le Soir. Deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont été déclarés persona non grata en Belgique. Le Royaume-Uni leur a aussi imposé des sanctions, tout comme à des colons juifs accusés de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, rapporte la BBC. La France en a fait autant, mais ce type de mesures, également prises par l'administration Biden l'an dernier, a été levé dès le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez veut montrer la voie à l'Europe, interdisant l'entrée sur le territoire espagnol à toute personne impliquée dans un génocide ou des crimes de guerre à Gaza et interdisant ses ports et son espace aérien aux navires et aux avions qui transportent des armes à destination d'Israël, note El Mundo. Le ministre israélien des Affaires étrangères accuse l'Espagne de promouvoir des politiques antisémites. Mais Pedro Sanchez ne change pas de cap. Après l'interruption de la dernière étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, par des manifestants pro-palestiniens dimanche, le Premier ministre espagnol leur a redit son soutien hier.
Sentimos un immenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se mobiliza contra la injusticia.
Nous ressentons un immense respect et une profonde admiration pour une société civile espagnole qui se mobilise contre l'injustice et défend ses convictions de manière pacifique, a déclaré le Premier ministre espagnol hier à la tête d'une coalition de gauche très critique à l'égard du gouvernement Netanyahou. Pedro Sanchez propose également qu'Israël ne participe à aucune compétition internationale tant que la barbarie continuera à Gaza, évoquant l'exemple de la Russie et des sanctions qui visent ces sportifs depuis l'invasion de l'Ukraine. Car la politique étrangère sert, dit encore Pedro Sanchez, à défendre ce qui est juste, même si l'on n'est pas toujours majoritaire. Il y a un an, on nous disait « vous êtes seul à reconnaître l'État de Palestine ». Eh bien aujourd'hui, la France et d'autres pays européens vont en faire autant. La présidente de la Commission européenne a proposé, elle aussi, des sanctions contre Israël. Finalement, nous ne sommes pas seuls en Espagne, nous sommes les premiers à agir. Mais ces positions ne font pas l'unanimité. Le chef de file du Parti populaire à droite parle d'une honte internationale pour l'Espagne. Quant à la présidente de droite de la région de Madrid, elle estime que l'interruption de la Vuelta, la fuite de certains touristes dans les rues de Madrid, donnait l'impression d'un Sarajevo en guerre, rapporte El Mundo, El País et Télémadrid.
Mais la position du gouvernement espagnol n'est pas le seul signe d'un isolement accru d'Israël sur la scène internationale.
En août, le vaste fonds souverain norvégien doté de 2000 milliards de dollars a annoncé qu'il commencerait à se désinvestir des sociétés cotées en Israël, indique le quotidien norvégien Aftenposten ainsi que le Financial Times. Dans son discours sur l'état de l'Union du 10 septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les événements à Gaza avaient ébranlé la conscience du monde. Un jour plus tard, plus de 300 anciens diplomates et fonctionnaires européens lui avaient demandé des mesures encore plus strictes contre Israël, une suspension totale de l'accord d'association avec l'État hébreu. Côté culturel à Hollywood, une lettre appelant au boycott des sociétés de production, des festivals et des diffuseurs israéliens a attiré plus de 4000 signatures en une semaine, dont celle d'Emma Stone, de Javier Bardem, rapporte The Hollywood Reporter et la BBC. Mais en Israël, l'association de producteurs de films et de télévision déplore que des créateurs qui donnent voix à des récits divers, qui encouragent le dialogue, soient ainsi ciblés indistinctement. Pour le quotidien israélien Haaretz, le dénouement peut-être de ce moment sud-africain, comme l'appelle aussi la BBC, se trouve à la Maison Blanche avec Donald Trump.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, ce sera le troisième épisode de notre série sur les frontières en Asie, des conflits en héritage. Nous parlerons encore une fois du Pakistan, mais cette fois pour sa frontière avec l'Afghanistan, la ligne du rang sous tension. Nous recevrons l'anthropologue Georges Lefeuvre, mais aussi pour le Focus, le géopolitologue Didier Chaudet, spécialiste des mondes persanophones et sud-asiatiques. À demain, mais d'abord, dans un instant, les midis de culture.